VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
16h à Conakry, 17h à Cotonou. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité, le patron du foot africain, Issa Hayatou, désigné président par intérim de la FIFA. C'est à la suite de la suspension de 90 jours prise par la commission d'éthique de la FIFA contre Joseph Blatter que donc Issa Hayatou devient président de la FIFA. Le Camerounais de 69 ans est président de la CAF, la Confédération africaine de football, depuis 1988 et membre du comité exécutif de la FIFA depuis 1990. Il est aussi président de la commission des finances de la FIFA. D'abord opposé à Joseph Blatter lors de l'élection de 2002, il est ensuite devenu son allié indéfectible. La FIFA a développé les infrastructures du foot africain à travers le projet Goal et a donné à l'Afrique sa première Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, en 2010. Pour Tarsis Harerimana, journaliste sportif et membre du comité exécutif de l'Association mondiale des journalistes olympiques, c'est un honneur pour l'Afrique.
C'est un honneur pour l'Afrique. Il est vrai que Lamine Diack vient de quitter la Fédération internationale d'athlétisme après aussi un règne important où il a marqué son pas, il a montré sa qualité d'homme africain et on croit savoir que parmi le plus sage, le plus perturbé aussi, celui qui a été plus ou moins dans l'ombre de ce scandale serait évidemment Issa Hayatou qui est là depuis 1988, 27 ans, 5 places à la Coupe du Monde. C'est son palmarès, groupe de la CAF, de la Confédération africaine qui agite le continent et qui attire et qui passionne le monde du football. Il a créé aussi la CHAN, le championnat d'Afrique des locaux. C'est le plus ancien, mais il faut aussi dire que c'est une confédération et peut-être l'une des plus pauvres du monde du football. Peut-être que la sagesse africaine peut peser sur cet homme-là qui, je l'ai rencontré récemment au championnat du monde d'athlétisme de Beijing. Je l'ai trouvé un peu fatigué, mais il a le temps de reprendre l'esprit et essayer d'être à côté de ce vent qui souffle. Parce que l'essentiel pour la FIFA, pour le monde du football, c'est que cette institution quand même soit sauvée malgré de nombreux scandales dont on parle actuellement.
Tarsis Harerimana, journaliste sportif et membre du comité exécutif de l'Association mondiale des journalistes olympiques, il répondait aux questions d'Eric Manirakiza. Élections en RDC, 13 organisations de la société civile congolaise lancent un appel urgent au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante pour exiger de cette dernière la publication au plus vite d'un nouveau calendrier des élections et la révision du fichier électoral. Elles demandent également aux autorités de commander les kits électoraux et disent craindre que la CENI ne soit en mesure d'organiser la présidentielle en novembre 2016 conformément à la Constitution. Maître Sylvain Loumou, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs.
Si on arrive au mois de février que rien n'est fait en termes de préparation des opérations électorales, principalement la révision du fichier électoral, ça veut dire qu'on n'aura pas les élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous avons évalué techniquement, nous avons vu qu'il y a 7 scrutins qui doivent être organisés. Maintenant, les élections qui étaient prévues en 2015 n'auront pas lieu. Jusqu'en février, on doit capitaliser ce temps pour préparer tous les autres scrutins qui doivent l'être et les organiser. En février, si on ne l'a pas fait, on aura le retard dans l'acheminement, les déploiements des kits électoraux, les recrutements des agents pour l'organisation des élections. Et nous aurons donc presque le même problème qu'en 2011. Et on risque donc de ne pas avoir des élections, en tout cas si c'est forcé, pas de très bonnes élections et qui pourraient déboucher à des contestations.
Maître Sylvain Loumou, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, au micro de notre correspondant Thierry Kamundi. Au Bénin, le principal opposant au président en exercice, Thomas Boniyayi, l'homme d'affaires béninois Patrice Talon, est arrivé aujourd'hui à Cotonou, mettant fin à un exil de 2 ans et un retour, évidemment, à quelques mois de l'élection présidentielle. Et même s'il n'est pas encore officiellement candidat, Patrice Talon se prépare pour ses élections de février prochain, selon ses propres collaborateurs. L'ancien roi du canton, longtemps proche du chef de l'État, dont il avait financé les deux dernières campagnes présidentielles, a été accusé d'être le cerveau d'une tentative d'empoisonnement du président en 2012 et puis d'être impliqué dans une tentative d'attentat à la sûreté de l'État en février 2013. Le chef de l'État, quant à lui, au pouvoir depuis 2006, a promis que son nom ne figurerait plus jamais sur aucun bulletin de vote. Mais des opposants craignent qu'il veuille supprimer la limitation des mandats présidentiels pour embrayer un troisième, à l'instar d'autres dirigeants africains. En Guinée, la présidentielle aura bien lieu dimanche comme prévu. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en a donné l'assurance hier. Une réponse claire à l'opposition qui faisait état de dysfonctionnement et d'anomalies. L'opposition qui avait appelé au report du scrutin. Plus de détails avec Michel Joseph.
L'état des préparatifs du scrutin du 11 octobre est largement satisfaisant, a affirmé mercredi Amadou Salif Kébé, porte-parole de la CENI, lors d'une conférence de presse à Conakry. Selon M. Kébé, la CENI se prononcera avant le premier tour sur les réserves émises par les 7 candidats de l'opposition concernant notamment la fiabilité des listes électorales et le retard dans la distribution des cartes d'électeurs. Le porte-parole de la CENI a tout de même reconnu que la distribution des cartes d'électeurs a atteint des niveaux variant entre 45 et 80% selon les régions. Pendant ce temps, la campagne électorale ouverte le 10 septembre bat son plein à Conakry, la capitale, et dans les régions, l'opposition ayant exclu de boycotter le scrutin du 11 octobre. Seuls quelques incidents localisés ont été signalés, les derniers à Nzérékoré, dans le sud-est, la semaine dernière.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La suite de l'actualité dans le reste du monde. Le chef de l'OTAN a critiqué l'escalade inquiétante des activités militaires de la Russie en Syrie au lendemain de tirs de missiles de croisière dans le cadre d'une campagne aérienne intensifiée contre les djihadistes et les rebelles dans le pays. Nathalie Barge.
Jens Stoltenberg a fait ses commentaires ce jeudi à son arrivée à une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles, où l'intervention de la Russie dans la guerre en Syrie était à l'ordre du jour. La tension est montée d'un cran après les rapports cette semaine disant que des jets russes impliqués dans les raids en Syrie ont violé l'espace aérien de la Turquie, membre de l'alliance militaire dirigée par les États-Unis. L'OTAN est prête et apte à défendre tous les alliés, y compris la Turquie, contre les menaces, a déclaré M. Stoltenberg. Nous avons déjà répondu en augmentant notre capacité de déployer des forces, y compris au sud, y compris en Turquie, a-t-il ajouté. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres de la Défense, le patron de l'Alliance Atlantique a déclaré avoir exhorté la Russie à jouer un rôle productif en Syrie, soulignant que ces actions récentes comme la violation de l'espace aérien turc sont contre-productives. Une solution politique dans le conflit syrien est plus que jamais nécessaire, a-t-il dit, avant de préciser que l'OTAN a finalisé des plans pour une force d'intervention jusqu'à 40 000 troupes, soit deux fois la taille actuelle, et des nouveaux bureaux du siège de l'OTAN en Hongrie et en Slovaquie.
Le chef des forces américaines en Afghanistan, le général John Campbell, a répété aujourd'hui que le bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz était une erreur. Les forces américaines ne, je le cite, « prenant pas pour cible les hôpitaux ». Le bombardement a fait au moins 22 morts, dont 12 parmi le personnel soignant de MSF. L'ONG était jeudi toujours sans nouvelles de 9 patients et de 24 employés, 5 jours après la frappe américaine. Le fait que des talibans soient soignés dans l'hôpital ne saurait justifier une frappe, a également assuré le général, en réponse à un parlementaire, soulignant que la frappe avait été demandée par les forces afghanes. Le président américain Barack Obama a présenté ses excuses hier à MSF, mais l'ONG continue de demander une enquête internationale indépendante sur son bombardement, le qualifiant de crime de guerre. Et puis, c'est la guerre civile au Yémen. Un bombardement imputé par des rebelles a fait 13 morts lors d'un mariage dans une ville contrôlée par les rebelles. Et le prix Nobel de littérature pour la Biélorusse, Svetlana Alexievitch, récompense une joie personnelle et pour son œuvre polyphonique, un mémorial à la souffrance et au courage de notre époque. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information dans 2 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.